Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Michel Charon.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « La volonté d'un seul peut changer le monde si elle est bien orientée ». C'est relativement simple, c'est pas les masses qui changent les choses dans l'histoire, c'est généralement un individu qui crée un événement, qui crée un momentum, un peu comme quand il y a une avalanche. Tout est sur le point de tomber, mais ça tient encore, mais il y a peut-être un grain de neige qui change, et là, c'est l'avalanche. Donc, c'est un peu comme ça. Quand quelqu'un arrive, un peu quelqu'un de la trempe d'un Socrate, un Gandhi... d'un Hitler.
Oui, j'allais dire d'Hitler, justement.
Ces personnes-là viennent et ils changent complètement la donne. Donc, c'est ça, aujourd'hui, le thème. La volonté d'un seul peut changer le monde si elle est bien orientée.
Mais ça, c'est sûr que c'est plus complexe que juste cet énoncé-là, quand on y pense, parce qu'habituellement, ça veut dire qu'il y a un environnement qui est déjà prêt à voir ce mouvement, ce changement-là, cette révolution-là se manifester. Donc, une genre de... d'environnement d'insatisfaction ou des choses comme ça. En plus, on dit que c'est la volonté d'un seul, mais en réalité, rares sont les situations, même j'en connais pas, moi, des situations où c'est vraiment l'agir d'un homme seul. C'est peut-être un homme de front, un homme qui prend l'avant-plan, qui exprime ou qui dénonce ou qui demande à la masse d'agir dans une certaine manière. Mais habituellement, ça veut dire aussi qu'il y a des équipes avec ça. Il y a des coéquipiers, il y a des gens qui font des trucs derrière les scènes pour faire avancer tout ce mouvement-là. Donc, je comprends la volonté d'un seul, mais je le vois jamais vraiment comme un acte solo. À part du moment peut-être déclencheur, comme tu disais tantôt, est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? OK, fait que là, à un moment donné, dans le temps, il a dit X, Y, Z, et puis c'est là que ça partit, puis le feu a mis aux poudres. Mais c'est pas nécessairement des actions d'une seule personne.
Je me demande si c'est pas associé en lien avec un mouvement ou une façon de penser qui est actuelle, qui est contemporain, que la personne en question ressent. Ce que les gens veulent en société, comme une sorte de vibration d'état de la vie, comment je pourrais dire, les gens sont en train d'être à un niveau précis de conscience, puis la personne en question, cet être qui désire, est-ce qu'il désire vraiment changer le monde, mais il y aura une influence certaines, comme à l'époque où il y avait les Peace and Love et tout, il y avait un mouvement. Est-ce qu'il y a eu une personne qui a représenté, qui a suivi, qui a comme fondé le mouvement, ce goût de libération, etc.?
Oui, il faut en convenir, il y a des personnalités, il y a des fortes personnalités, des têtes fortes, comme par exemple Hitler en était une personnalité très forte. Et derrière cette personnalité se cachait, il y en a beaucoup qui ont fait son étude en psychanalyse, tout ça, il y avait aussi toute une enfance derrière ça, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais je veux parler des personnalités fortes, et tout d'abord, ça prend vraiment une volonté pour amener autant de personnes. Et il y a aussi un effet d'entraînement. Donc, oui, la personnalité forte, la volonté, mais il y a aussi l'effet d'entraînement qui est vraiment quelque chose d'assez fascinant.
Moi, je serais plus d'accord à dire que la volonté d'un seul peut changer pas le monde, mais son monde, sa réalité et son existence et sa perception puis sa vie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si tu essayes, si tu fais des efforts ou si tu gardes ton attention, appelons-le comme on veut, si tu gardes ton attention dans une direction constante, éventuellement, la résistance, l'érosion va se faire, la résistance va céder, puis bang, tu vas avoir quelque chose.
Ben, je veux dire, on dirait que tu vois peut-être juste la première partie de la phrase de Gandhi. Be the change you want to see in the world. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mm-hmm. Mais si vraiment tu te changes à un point où tu te cristallises, alors là, tu as un effet sur le monde autour de toi. Un Christ, un Bouddha, un Krishna, quelqu'un qui entre dans cet état d'être envoie une onde partout là, dans l'univers. Je crois que c'est à ce niveau-là où la volonté de quelqu'un peut changer plus que la volonté de plein de gens. Dans le sens que...
Oui, mais ça, c'est vrai peut-être pour quelqu'un qui applique pour la job d'être le leader d'un mouvement révolutionnaire.
Pas nécessairement.
Mais c'est pas tout le monde qui cherche à avoir cette position-là.
Le gars Gandhi n'a jamais cherché à se mettre devant. Pourtant, il a changé radicalement le monde autour de lui. Donc, je ne parle pas ici d'une volonté de changer le monde. Je parle que la volonté de quelqu'un, sa volonté de faire quelque chose, peut faire changer radicalement les choses sans que lui-même soit conscient parfois.
Donc,
OK.
Donc, on veut plutôt parler de l'impact que la volonté d'un individu peut avoir, sachant qu'il peut influencer les masses. Donc, que peut-il influencer? S'il est capable d'influencer les masses, il peut faire d'autres choses avec ça également.
Un exemple de volonté. Ce temps-ci, j'ai écouté Pumping Iron. C'est un film qui a été fait d'Arnold Schwarzenegger dans le temps où il a gagné Monsieur Univers, en 8 fois de suite. Et le documentaire est à propos de lui et des gens autour de lui. Et il donne sa technique, c'est d'avoir une volonté à toute épreuve. Et puis, ça fait qu'il a gagné. Même, il donne une anecdote. Quand il avait 18 ans, il était dans l'armée. Il voulait participer à un concours de monsieur de bodybuilding aux États-Unis. Donc, il a réussi à s'échapper. Il a osé s'échapper. Puis, il est allé là-bas. Il est revenu. Il s'est fait prendre. Sauf que ça s'est reviré pour lui. En même temps, il est devenu un exemple parce qu'il avait gagné. Et ils ont commencé à instaurer du matériel pour faire du bodybuilding à l'armée. Et il a changé les choses. Tu vois, son but, c'était pas ça. C'était pas de changer le monde du culturisme. Mais il l'a fait à sa manière. Et c'est par manière détournée.
Et derrière la volonté, pardon, ça prend de l'attrait. Ça prend quelqu'un qui est attrayant, quelqu'un qui... à quelque chose qui nous attire. Hein? Alors, ces gens-là qu'on a vus changer le monde ou changer du monde, en tout cas, des groupes, avaient derrière cette volonté-là, parce que juste la volonté, on dirait que c'est pas assez. C'est des gens qui ont beaucoup d'attrait, beaucoup de charisme.
C'est ça le mot, charisme, oui. Mm-hmm.
Est-ce que d'abord, soi-même, comment on peut être modèle de s'exprimer, d'être pleinement soi. Les gens, dans leurs commentaires, les gens qui nous côtoient, on sent qu'on a un effet, on a une radiation de notre présence aux autres, notre style. Moi, souvent, on me rapporte ma manière d'être. On me dit, ah, tu es quelqu'un de ceci, cela, tu es quelqu'un qui est assez fantaisiste, qui est assez unique, tu es surprenant. Même, il y a un ami, lorsque je l'ai connu, il dit, ah, je suis sûr que tu faisais partie d'un programme précis, tant qu'il me trouvait spécial, comme pour personne avec une problématique psychique. Il dit, t'es tellement spécial, il dit, j'étais sûr que tu venais d'un programme précis. Donc, à la fois, ça, on pourrait prendre ça comme une insulte, mais au contraire, c'est comme une flatterie dans un sens autre, en se disant, ben voilà, je suis singulier à ma façon, il est attiré à mieux me connaître. Ça a été le point de départ de notre amitié parce qu'il trouvait que j'étais pas comme les autres. Donc, je pense que là aussi, on change le monde à sa façon. Je pense que les gens sont attirés envers ce qui est différent aussi, même si c'est ce qui est rejeté beaucoup aussi à l'enfance, lorsqu'on est petit, par nos camarades qui veulent le conformisme, mais qui l'imposent, que ça leur est inculqué, puis à leur tour, ils peuvent être très mesquins devant les gens différents. Donc moi, je suis particulièrement sensible à ça, à cette réalité-là, d'être pleinement de moi-même.
Et la volonté est une forme d'énergie, en fait. Ça nous anime. En tout cas, moi, j'ai une volonté de créer depuis longtemps et ça m'anime de l'intérieur, ça me nourrit. Et cette volonté, les premières années, OK, c'est là, mais tu vois, là, ça fait déjà un bon 30 ans que je crée de manière... et il y a un momentum qui peut se créer à un certain point. J'ai écrit des livres, il me suffirait de passer une émission comme tout le monde en parle, une émission très populaire, tout d'un coup, oh, mes idées pourraient devenir... entrer dans le monde et je pourrais changer le monde.
Oui, mais il faudrait que je change de sujet. Il faudrait qu'on parle de... Il faudrait qu'on parle de choses mondaines et de choses...
ou d'actualités concrètes, ouais. Très momentanées, peut-être.
Mais non, je resterai moi-même.
Ouais.
Non, mais que mon message, ouais. Comme tu disais tantôt, il y a un momentum, il y a un moment où, oui, tu as la personne qui va cristalliser les choses, mais il y a un peuple qui est prêt. Hein,
ouais. Si on pense... Il y a un timing, exactement.
On a encore la médiocrité qui domine en ce moment sur les ondes et les médias de masse. Donc, c'est pour ça que ils sont pas encore prêts encore, malheureusement.
Yeah. C'est pour ça qu'on est là. On va passer à la pause avec la chronique de Audrey Tardy qui s'appelle « Sous l'influence du bonheur ». Et nous allons revenir avec ce thème « La volonté d'un seul peut changer le monde si elle est bien orientée ».
Vous écoutez l'émission Propos sur le bonheur et bienvenue à la 7e capsule sous l'influence du bonheur avec Audrey. Je commence avec une citation de Marcel Proust. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Les fleurs sont en pleine floraison, les oiseaux chantent, la chaleur et l'humidité se font ressentir. L'été s'est bien établi, même si en théorie, il faut attendre jusqu'au 21 juin pour officialiser son arrivée. Les cégepiens et les universitaires peuvent enfin célébrer une autre année d'achevée sur la route des études, qui peut parfois sembler longue, sans fin et remplie de petites embûches. Pour certains, c'est une réussite vers un autre chapitre, et pour d'autres, c'est qu'un répit avant de continuer à l'automne. Vraisemblablement, le temps des vacances et la saison estivale ont donné le coup d'envol avec une panoplie d'activités organisées en ville comme en campagne. La ville bourdonne de vie. Certains peuvent dire qu'il y a toujours de l'action en ville. Les klaxons, les sirènes, les gyrophares, les alarmes. Mais l'action, c'est pas de la vie. Le bruit des insectes, des animaux, surtout les humains qui parlent sur les trottoirs, les 5 à 7 sur les terrasses et même sur les balcons. Ça, c'est le genre de vie dont je parle. C'est le temps de la découverte, le temps de se promener. Est-ce que vous avez commencé à planifier vos vacances? C'est bien de se reposer, puis de prendre un peu de temps pour faire absolument rien, mais c'est redondant. Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour explorer des régions touristiques? Si partir sur la route, c'est pas une option pour vous. On peut toujours faire le touriste dans sa propre ville. Ça peut être comique, puis ça peut être très agréable. En plus, durant la saison estivale, il y a plusieurs activités. Les fêtes de ville, les festivals en plein air, les expositions. Ça, c'est juste quelques options moins coûteuses qui sont créées dans l'optique de divertir tout d'abord ses propres citoyens. Aller voir des feux d'artifice, aller faire un pique-nique sur le Mont-Royal ou bien au berge du canal Lachine. Aller voir une exposition horticole à Saint-Hyacinthe. Aller voir l'exposition des 1001 pots à Val-David. C'est quelques exemples plus simples. Peu importe l'option que vous choisissez, l'important c'est de sortir de sa routine, se sortir du quotidien et surtout faire quelque chose de nouveau. Peut-être que ça consiste pour vous de faire une virée en voiture, sans contrainte, sans destination, dans le but de découvrir un coin de la province que vous n'avez jamais visité. Peut-être que ça consiste pour vous d'aller monter les marches de la tour de l'horloge du Vieux-Port de Montréal. Parfois, le bonheur, ça peut être aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Écrivez-moi sur notre site web propossurlebonheur.com. Je suis Audrey et c'était la 7e capsule sous l'influence du bonheur à l'émission Propos sur le bonheur.
De retour à propos sur le bonheur, notre thème aujourd'hui est « La volonté d'un seul peut changer le monde si elle est bien orientée ». Moi, je me pose toujours cette question, c'est « Qu'est-ce que pense la majorité ?» Et quand j'ai compris ce que la majorité pense, je sais qu'il faut que je pense le contraire, parce que la majorité a toujours tort. Elle va toujours dans la mauvaise direction. Si on regarde l'histoire, c'est un fait, c'est là. Les masses ont un quotient intellectuel pas plus élevé que les végétaux. Alors qu'un individu seul, ou à la limite des petites communautés, ces petites cellules ont beaucoup plus d'intelligence. Généralement, autour des grands maîtres, comme le Christ, Platon, Socrate, il n'y avait pas plus de 12 disciples. Et ça, c'est un signe de concentration. Il y a une belle concentration et ces 10 ou ces 9 personnes, ces 12 personnes peuvent changer le monde beaucoup plus que les masses. Ça, c'est assez évident. Si on voit avec l'histoire de Jésus, il a complètement changé le monde. Sa présence, qu'il soit vrai ou pas, ça n'a aucune importance. Il y a un individu qu'on appelle Jésus maintenant qui a changé le monde. Donc, il a dû avoir un point, un certain point, au point zéro, où il s'est passé quelque chose. Énergétiquement, moi, j'avais beaucoup étudié les grands maîtres, pourquoi on atteint ces états-là. Et ce que j'avais compris, c'est que ça prend juste une personne, un Christ, par exemple, pour rebalancer l'énergie. Même s'il y a des milliards de gens sur la Terre qui sont complètement en désharmonie, il suffit d'un ou deux ou trois ou quatre Bouddhas et pouf, l'énergie est rétablie.
En ce qui concerne Jésus, il y avait la volonté, mais c'était aussi très bien orienté. Alors, il y avait ces deux points-là qui étaient importants. Et c'est pour ça que ça a fait que ça a changé vraiment le monde. C'était une belle orientation.
C'est sûr qu'il devait avoir une volonté de faire parce qu'il devait avoir tout le monde contre lui. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Mais il y avait
l'orientation qui était vers quoi? L'amour. C'était ça l'orientation. Donc, il était bien orienté et ça a donné ce que ça a donné. Que ça marche, que ça soit vrai ou pas, ben ça a fait quand même changer le monde. Hein?
Ouais, mais on n'est plus dans la même époque. Hein? Les choses ont changé, vous avez remarqué. Hein?
Ouais, mais on peut penser à Dali, par exemple. Dali est un super génie qui a complètement révolutionné la peinture.
Ouais. Oui, oui. Mais quand on parle, si on parle de dans quel but, si qu'on veut voir changer le monde, on veut changer pourquoi? On n'a pas dit peut-être cette proposition on dit un exemple qu'on peut changer, on n'a pas dit exactement pourquoi ou dans quel but.
Je pense pas que c'est si important. Je pense pas que c'est. Mais la manière qu'on en a parlé tantôt, c'est que c'est pas nécessairement une volonté consciente de changer le monde. C'est une volonté de faire quelque chose, de faire ce qu'il doit être. Si moi, je fais ce que je dois être, j'ai un impact sur le monde. Mais il y a des gens qui ont un impact beaucoup plus vaste. Quand tu deviens une superstar ou tu deviens quelqu'un de connu, tu dis quelque chose et plein de gens vont te copier. Mm-hmm. Tu sais, comment il s'appelle celui qui a créé Macintosh?
Steve Jobs.
Steve Jobs. Mm-hmm. Ça, c'est un autre exemple. Le gars, c'est une volonté de faire. Là. Ouais. Ça, c'était évidemment quelqu'un qui était très, très autoritaire. Qui est
très difficile à travailler avec.
D'une intelligence supérieure aussi. Ouais. Hein? L'intelligence.
Sinon, dans l'autre point de vue, c'est...
Il n'était pas vraiment si intelligent que ça. Si on regarde un des documentaires qui a été fait là-dessus, il n'a pas compris vraiment, je pense, à un certain moment donné, dans sa carrière, la différence entre logiciel puis quincaillerie. Ouais. C'est pour ça que Bill Gates a compris la différence entre mettre l'emphase sur la machine mécanique versus le logiciel. Lui, il était du côté du logiciel, puis il est devenu...
Intelligent dans son domaine, en tout cas.
Oui, il y avait un objectif précis de créer un instrument, un appareil et tout, qui est accessible à tous, dans ce sens-là, de l'appareil Macintosh et des ordinateurs qui ont suivi. Mais
encore une fois, l'orientation était bonne parce qu'on était dans l'ère de...
Moi, ce que j'amène, c'est l'idée d'avoir, une orientation, d'avoir une volonté, mais de la suivre, de faire un suivi. S'il avait changé de carrière à travers le temps, s'il avait fait autre chose, ben, il ne serait pas Steve Jobs. Et il y a une volonté de comme moi, par exemple, je regarde ma vie, tout a concouru. Tout concourt ouais, à me m'enlever l'idée de faire de l'art. Le monde n'est pas créé pour faire de l'art.
C'est pas favorisant. Non. Tu as des obstacles constamment.
Mais j'ai une volonté intérieure. Même si, encore aujourd'hui, je ne me sens pas reconnu, l'inspiration jaillit comme quand j'avais 10 ans, 20 ans. Elle est aussi pure, aussi belle, et je la suis encore. Il y a cette volonté. Donc, même si je ne suis pas reconnu de mon vivant, si je ne suis pas reconnu, c'est arrivé à plein d'artistes, eh bien, c'est de garder cette volonté et il va y avoir une œuvre.
Ta vie est une œuvre. Donc,
ma vie est une œuvre.
Donc, la vie de chacun l'est, en espérant que c'est l'œuvre qu'on désire, si on pourrait dire, que les autres se souviennent de nous dans ce sens-là, si on met de l'importance là-dessus. Mais tantôt, j'essaie de comprendre un peu aussi l'idée des masses de mouvement. Quand tu vois, on dit tantôt, quand tout le monde s'en va dans une direction, on va dans l'opposé. Puis, règle générale, c'est une bonne chose à le voir de même, parce que, règle générale, les masses sont influencées justement par les médias, des valeurs fausses. Et c'est ça que je fais aussi. Moi, quand je vois tout ça aller dans une direction, je m'en vais dans l'autre. Mais il y a des raisons pour ça aussi. Puis, si les exceptions à ça seraient peut-être s'il y aurait un mouvement de masse un jour qui voudrait détrôner le système actuel, par exemple le système de représentants qu'on élit pour aller gérer les choses de l'État, là. Tout cet arnaque-là. S'il y aurait un mouvement de masse pour les faire enlever, ben ça, peut-être que je donnerais mon vote là-dessus, ben dans le sens que je participerais là-dessus. Mais encore là, ils ont encore la main haute, et puis ce système-là, il n'est pas prêt de partir, semble-t-il, immédiatement. Pourtant, c'est une des clés de cette bêtise humaine là, qu'on vit en ce moment. Ouais, c'est ça que je voulais
dire. S'il y avait un mouvement de masse comme ça, moi, je m'en méfierais. En maudit.
Ouais,
j'irais vraiment dans l'autre sens, parce qu'un paquet de gens qui vont dans un sens, tu peux être assuré qu'il y a des leaders en haut qui ont poussé quelqu'un vers là.
Il y a de la manipulation dans l'air.
Il y a toujours de la manipulation, oui. Il n'y a pas rien de parfait, malgré que c'est plutôt un mouvement. L'idéal, le mouvement devrait se faire par petits groupes graduellement. Et prendre, comme ils disent, grassroots, là, tu sais, qui prend racine localement et puis qui parle pour le groupe, le gens d'un endroit, d'un quartier, etc.
Que ce soit pas trop rapide, parce que je trouve que les hommes gris, ceux qui font partie de l'appareil manipulateur plutocratique, savent toujours reprendre. Tu sais, il y a eu des révolutions dans les dernières années dans des pays comme l'Égypte. Et ces gens-là sont tellement habiles, ils ont tellement d'argent qui laissent la révolution arriver, mais ils la reprennent en main tout de suite après. Et ça se revire toujours contre les personnes. Donc moi, je me méfie quand c'est des masses, on voit qu'il n'y a pas d'intelligence. Quand il y a un petit concentration, quand on parle par exemple des maîtres spirituels, des grands maîtres, ben on est jamais, ils ne sont jamais beaucoup autour. Et pour moi, c'est un très bon signe. On peut penser aussi à Nisargatha Maharaj, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis, I am ». Et c'était un... Je veux dire, c'est un des plus grands maîtres qu'on a eu, mais il n'y avait pas plus de 10-12 personnes qui allaient le voir quand il donnait ses conférences chez lui, dans son atelier en haut. Et pourtant, c'est un des plus grands maîtres.
Ça va sans doute dans le sens de la pensée que j'aime beaucoup, qui dit « plus on est soi, plus on est tout ». Donc, il a réussi à concentrer en soi le monde, sa façon d'être, qui rayonne aussi par sa manière. Ben, c'est quoi déjà le titre que tu disais, Nicolas?
Le titre de...
De son livre à ce...
Ah, oh, je suis.
Je suis très...
Je suis. I am.
Oui. Donc, voilà, ça veut tout dire.
Derrière ces personnages-là, qui ont cette volonté-là et la bonne orientation, on peut aussi remarquer que c'est des gens qui sont très connectés, qui ont une intuition. Et ils ont le sens du timing aussi. Derrière cette volonté-là, il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. Et c'est ce qui fait que ce sont des gens qui réussissent à amener les gens avec eux. C'est tout ça, je pense, qui fait que ce sont des gagnants.
Moi, je pense que la bonne manière, c'est justement de se changer soi-même et d'avoir le changement en soi. Et là, t'inspires les gens à faire comme toi. Tu les obliges pas, tu les forces pas.
Mais c'est ça l'attrait.
Tu parlais moins tantôt du charisme. Il y a un charisme qui est une lumière, en fait, qu'on veut suivre. Et je pense que c'est. Des fois, c'est des gens tout simples qui n'ont pas pensé qu'ils allaient changer le monde. Mais ils ont écouté leur petite voix. Et ça, pour moi, c'est très important. Écouter mon intuition. Mm-hmm. Parce que c'est toujours ça qui me dit va là, sois là, à tel moment, ne sois pas là. Quelques secondes plus tard, il est déjà trop tard. Donc, toujours être au bon moment, au bon endroit. Pour moi, c'est extrêmement important. On va passer à la pause musicale avec J.F. Bastien. Jean-François Bastien, probablement. J'ai oublié de marquer son nom. Et cette chanson qui s'appelle « Je vais changer le monde ». Et nous allons revenir après la pause avec ce thème. La volonté d'un seul peut changer le monde si elle est bien orientée. Et pour les auditeurs de Radio Centre-Ville, je vous invite à venir écouter la fin de l'émission sur proposurlebonheur.com.
Je vais arrêter la guerre, arrêter les tanks et les hélicoptères. Je vais arrêter la guerre, arrêter les missiles, les bombes nucléaires. Il y a plein d'hommes qui font la guerre, et jamais personne, non, pour la défaire. Je vais changer le monde avec une chanson, faire taire les canons, désarmer les avions. Je vais changer le monde avec une chanson, si tous ensemble nous la chantons. On va arrêter la guerre, arrêter les tanks et les hélicoptères. Je vais changer le monde. Je vais changer le monde avec une chanson. Je vais faire les canons, désarmer les avions. Je vais changer le monde avec une chanson. Si tous ensemble, si tous ensemble. Je vais changer le monde avec une chanson. Faire taire les canons.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La volonté d'un seul peut changer le monde s'il est bien orienté. » Max Planck disait « La vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires finissent par mourir. » C'est dans cette optique que même quelqu'un qui a tort contre la majorité des gens, s'il continue, s'il persiste même devant l'évidence qu'il est un perdant, un jour ou l'autre, il pourrait devenir un point important, un vecteur essentiel d'un grand changement. On dit qu'une horloge arrêtée donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, moi, c'est comme ça que je pense. Je me dis, je ne cherche pas à être populaire, être une superstar. Ce que moi, il m'importe, c'est d'être un classique. C'est-à-dire de penser mon œuvre pour qu'elle ne se démode pas, qu'elle reste toujours pertinente. Et que même dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans, on peut se la regarder, l'apprécier un peu comme on fait pour les tableaux, la pensée des Grecs, etc. Moi, je fonde tout ce que je fais dans la permanence. Donc, c'est ça, cette idée de cette volonté qui ne peut pas être arrêtée. On peut changer le monde avec ce type de volonté.
Ça demande la détermination. Ça demande aussi de cette intégrité avec soi-même, hein, de ne pas être faux.
C'est ça.
Et il y a bien des choses qui nous demandent et qui nous amènent des fois à nous compromettre par des valeurs qu'on a abandonnées, par des illusions qu'on a, dans lesquelles on s'est embarqué. Donc, c'est pas évident, mais dans l'ensemble, c'est possible. Il n'y a pas rien qui l'empêche.
Bien, à savoir la permanence d'être, d'être soi, je trouve que c'est... comment être autrement? Je trouve que c'est un appel, ça doit être un acte de tous les instants, dans tous les segments de notre vie. Souvent, on est soi-même trop partiellement. Je pense que avec les gens que l'on côtoie, notre famille, les gens qui sont proches, je sens que j'ai des difficultés d'être pleinement moi-même en tout temps, puis que j'ai des contrariétés parce que je me sens pas à l'aise par moment dans certains contextes. Donc je me dis, je veux être autrement à ce niveau-là. Je me dis, pour être bien, puis pour que j'émane plus de moi-même, là, peut-être pour que je puisse, qu'il y ait une sorte de meilleure manifestation de ce que je suis, et pour aussi m'inspirer à mieux créer, à être plus heureux, je pense que je dois être pleinement moi-même dans toutes les circonstances de ma vie. Puis c'est là que je me sens plus joyeux et plus vrai et en meilleure harmonie.
Ça prend aussi une confiance en soi. Ça prend une très grande confiance en soi pour la volonté puis l'orientation, tout ça. Ça prend aussi une connaissance, avoir fait un travail d'introspection, se connaître, tout ça, pour pouvoir vraiment avoir toute cette espèce d'attrait, de charisme pour les autres. Je pense qu'il y a une espèce il y a une bonne introspection qui a été faite, et des fois peut-être pas non plus, tu sais, ça se peut que la personne n'ait pas une... mais il y en a, oui, pour qui ça a été un travail de fait, puis il y en a d'autres qui l'ont comme ça, c'est ils l'ont, que veux-tu, ils ont la volonté puis l'orientation, puis ça marche, puis on sait pas pourquoi ces gens-là brillent, puis c'est... ça marche, leur affaire. Ils sont comme doués. Point final.
D'une part, où on sent beaucoup des gens qui ont une forte énergie, qui ont un grand dynamisme. Ils semblent exceller en tout par leur cadre. Ils sont très beaux, ils sont extraordinaires, ils sont envoûtants et tout. Il y a des gens qui sont pour nous des modèles, on ne sait pas. Ils sont peut-être conformistes à leur façon et tout. Puis ils semblent trouver une façon de faire partie de cette société-là sans que ça semble affecter trop leur vie. Je sais pas d'où ça vient. J'ai des modèles, j'ai des exemples de personnes que je connais qui ont une vie conventionnelle, mais ils semblent... Je ne comprends pas parfois leur façon d'être. Comment ils réussissent à avoir autant d'énergie pour se soumettre? Tu sais, c'est très accaparant et demandant. Un travail professionnel où la personne fait des horaires de fou ou a des grandes charges de travail, mais en même temps, cette personne-là, elle est resplendissante, elle est extraordinaire, elle semble avoir une vie exaltante et qu'on aurait le goût de vivre, en tout cas le reste de sa vie, pas celle associée au travail, mais la vie de sa vie de chez elle, dans sa vie intime. Mais je ne sais pas comment elle se sent avec elle-même. Peut-être que c'est faux, c'est peut-être un simulacre de bonheur, mais je ne sais trop.
Ça peut-être aussi dépend de l'âge de la personne aussi.
Oui, mais cette personne-là est quand même assez âgée, plus âgée que moi. Okay. Elle est dans la cinquantaine.
Okay.
Donc, ça m'étonne, mais je trouve qu'elle a une fougue, une énergie telle. Mais je pense qu'elle a découvert ce qui était vraiment elle-même. Elle aime s'investir dans ce qu'elle fait, puis ça la nourrit beaucoup.
Ben, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus, parce que c'est vraiment, moi, le terme, c'est énergie qui me revient, puis moi, je l'associe plutôt à, même au terme de charge, dans le sens d'électrique, dans le sens de la compréhension de l'électricité, et dans le sens que si on est pour mettre son pied à terre, puis faire sa volonté, puis l'exprimer, et de vivre le plein potentiel, bon, on se doit d'accumuler cette charge, on doit la créer puis la conserver. Il y a un certain principe de conservation qui s'applique, et en même temps de l'usage de cette charge-là, d'une manière où ce que, comme dans un processus, il appelle ça de over-unity dans l'électricité, dans les domaines de d'énergie avancée, là, des modèles de concept de moteur à qui n'ont pas besoin
de carburant.
De carburant, exactement. Dans ce sens-là, il y a un modèle où ce que l'énergie dépensée se récupère, puis même des fois se multiplie. Plus tu en dépenses, plus tu en fais. Donc, c'est un peu ce principe-là qui, pour moi, est une des clés à avancer la proposition de qu'est-ce que c'est cette existence.
Là où c'est moins drôle, c'est quand la volonté, si on parle d'Hitler, tantôt, au début de l'émission, je parlais d'Hitler. Ça, c'est moins le fun de ce que je vais vous dire, mais il faut que je le dise. C'est que Hitler, lui, sa volonté, ce que j'ai lu là, pour Hitler, puis ce que je pense, moi, personnellement, sa volonté, c'était de se revenger de son père qui l'avait battu. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et son enfance qui a été extrêmement difficile. Et puis, il en a tué une gang pour se revenger. Fait que lui, sa volonté, son orientation, ça a été vraiment négatif. Alors, c'est pas toujours nécessairement positif, la volonté puis l'orientation. Dans le cas d'Hitler, c'était, à mon avis, très négatif et ça a fait.
Tu sais, en fait, il était un pion lui-même. Hein? En fait, on parle toujours d'Hitler et c'est devenu comme
l'homme à abattre.
L'homme à abattre, mais c'est bon. Il y a quelqu'un qui lui a donné de l'argent à ce moment-là. Les Rockefeller a donné de l'argent à Hitler, il a donné de l'argent aux États-Unis.
Oui, mais il y avait son drive de son enfant. Son drive était là.
Sans l'argent.
Il y avait un drive en crime, lui. Là,
sans l'argent d'un Rockefeller qui a permis à Hitler, parce qu'il a reçu des investissements qui lui ont donné la possibilité d'acheter.
IBM, entre autres, il a acheté la machinerie d'IBM.
Donc, remontons à Rockefeller. Sa volonté à lui, il décide quelque chose. Il influence tout le monde. Cet homme-là a un pouvoir, sa famille au complet a un pouvoir qui fait qu'il peut changer les choses. Il fait en sorte que la majorité des gens mangent des produits chimiques et en sont très heureux. Ils en redemandent. Ils vont fumer de la cigarette, ils vont s'intoxiquer parce qu'on leur a dit que c'était hip. Mais ça vient tout d'en haut. Ouais. Ces gens-là, ils n'ont aucun problème à nous voir mourir, à nous voir souffrir.
Il faut toujours voir derrière la scène, hein, parce que dans le cas d'Hitler, c'est une couche d'un processus à multiples couches, à multiples niveaux. Comment en ce moment, c'est-à-dire à l'échelle planétaire, en ce moment, on est en train de se faire donner un traitement de chimiothérapie, hein, je ne sais pas si vous le savez, hein. On a les particules dans l'air par les avions. Puis on a Fukushima qui est en train de nous irradier en même temps. Mm-hmm. C'est un traitement de chimiothérapie.
Pas fumer.
Mais on ne l'a pas demandé, ça.
La radiation de nos appareils électroniques, est-ce qu'on en tient compte aussi?
Ben oui, exactement. C'est la même chose. C'est le même principe. L'électronique, les dispositifs électroniques qu'on amène par la tête.
C'est toute une stratégie d'empoisonnement. Comment on vous rend malade? Parce que c'est payant qu'on soit malade.
Il faut que tu...
Tu parles-tu des Wi-Fi, les ordinateurs, les Wi-Fi?
On parle de toutes ces choses-là.
OK.
Mais quand on y pense, il faut penser que, vu qu'on survit, ces systèmes plutocratiques-là, vu qu'ils survivent encore, c'est qu'il y a une intelligence. Et moi, j'aimerais partager une pensée. S'il existe un grand méchant qui domine beaucoup de choses, ce grand méchant-là possède probablement une connaissance aussi de la nature de l'existence. S'il est conscient de la nature de l'existence éternelle de l'être, on va lui donner, mettons, ce crédit-là, mais à ce moment-là, on pourrait croire qu'il n'y a pas grande moralité ou opposition dans sa tête ou conflit à tuer des millions et des millions, vu qu'il sait que l'être est éternel, qu'ils vont revenir de toute façon. Pensez à ça.
Je ne pense pas qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense plutôt que ce sont des reptiliens qui n'ont pas d'émotion. Donc, ils voient pas ça du niveau spirituel, le retour. Je crois pas du tout. Ce sont des purs matérialistes.
Selon Jim Lear, le fils de je crois que c'était John Lear, qui était le créateur des Lear Jets, qui est un pilote qui a une bonne réputation, lui, il voit ça comme la description, puis le terme spécifique, c'est que ces influences-là voient les êtres humains comme des contenants. Alors, c'était juste une question de gérer des contenants et non pas le contenu.
Ils ont la volonté de nous détruire, quoi?
Oui, mm-hmm. C'est évident. Moi, c'est clair dans ma tête. Et c'est pour ça que j'ai toujours réagi. J'ai toujours réagi très fortement à l'autorité depuis que je suis jeune. Je ne me laisse pas emplir par n'importe qui. Eh bien, un autre qui ne s'est pas laissé emplir, Jean Leloup, va nous faire une chanson qui s'appelle « Recommencer ». Et nous allons revenir après la pause avec ce thème. La volonté d'un seul peut changer le monde si elle est bien orientée.
je partirais tellement aujourd'hui. Je partirai au milieu de la nuit. Je dirai bonsoir à tous mes amis. Et je m'en irai à l'infini. Mais je préfère toujours recommencer. Faut-il tellement aimer pleurer? J'ai couru la ville du sud au nord. Il y a ce que j'aime et ce que j'adore. Ils attendaient tout et rien n'est venu. La pluie, le vent, la neige a fondu. Ne partez jamais sans lui dire je t'aime. Ne fuyez jamais devant les problèmes. C'est que les ouragans, les orages ont vu passer trop de temps. Je n'en dirai pas davantage. Maintenant, il est trop tard.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La volonté d'un seul peut changer le monde s'il est bien orienté. » Tout est interrelié dans le monde. Il y a même eu un film dernièrement qui s'appelait « L'effet papillon ». On connaît tous l'effet papillon. Il y a un petit changement, on écrase un papillon ici et ça peut changer quelque chose à l'autre bout de la planète. Les gens qui ont cette volonté, qui se démarquent, qui sont des individus, ils peuvent parfois dire un mot et ça va tout déclencher, ça va tout changer. Parfois, c'est aussi l'œuvre de leur vie. C'est tout le temps qu'ils ont mis à créer quelque chose. C'est pas toujours une grosse œuvre. Hein. On peut penser à certains poètes qui ont écrit un petit livre. Je veux dire, Baudelaire a travaillé toute sa vie sur un livre, mais ça l'a changé complètement, le monde de la poésie.
Mais j'aime bien quand tu dis « s'il est bien orienté ». Parce que la volonté, des fois, peut nous mener dans la merde. Alors, mais si elle est bien orientée, c'est bien important pour moi. Parce que c'est ça, faut que ça soit bien orienté. Parce que la volonté déchaînée, comme on dit, parfois, à ce moment-là, ça nous bloque. On s'empêche justement d'être connecté. Et puis, on peut pas à la bonne place au bon moment, justement. Mais si c'est bien orienté... Mais à ce moment-là, ça peut être. C'est sûr que ça peut être positif à ce moment-là.
Moi, je voyais le sens de bien orienté, pas nécessairement dans le sens éthique ou moral, mais aussi avec une structure, avec une organisation de la pensée. C'est-à-dire que la personne construit tout un monde, on le disait tantôt, s'il y a une concentration de la réflexion en lui. Il y a comme un instrument de changement, il y a de quoi qui l'anime beaucoup à un haut niveau. Comme moi, ça devait être de dire, je voudrais être quelqu'un, être un modèle dans la communauté gay, d'être le plus grand séducteur. Donc, c'est beau d'avoir cette réflexion-là, ce fantasme de dire, je vais être le Casanova gay. Mais c'est bien beau, pourquoi pas? Là, jusqu'à maintenant, je ne le suis pas. Je le serai peut-être, sans le vouloir, en le voulant d'une façon quelconque. Mais au point de départ, ça demande toute une... en soi que je sois très à l'aise avec moi-même à tous les niveaux et avec les autres, évidemment. Donc, moi, je vois ça
oui,
ainsi.
Dans le sens de bien planifier. Oui, ça prend beaucoup de discipline, je pense.
Oui, c'est ça, que ça fasse partie de mes pensées en continu, ou de ma façon de vivre en continu, que je ne me consacre qu'à cela. Consacre. Voilà, des fois, on déparle à certains moments.
Que ça devienne comme une passion, dans le fond. Oui. Ouais.
Et si on croit à l'effet papillon, puis qu'un petit, une petite action peut avoir un grand impact, j'espère, je projette l'intention que cette émission aille un impact sur la pensée des gens, à les amener à vraiment vouloir changer la face du monde, parce qu'on a vraiment besoin d'un changement externe. La belle planète Terre, qui est une librairie biologique incroyable, continue à se détériorer. Et puis, c'est le temps qu'on arrête de faire des choses qui sont insoutenables, dans le sens que c'est un système qui ne peut pas se régénérer. Tu sais, à un moment donné, quand tu as coupé tous les arbres, il n'en reste plus, là, tu sais. Fait que, dans ce sens-là, on ne peut pas continuer le même style de vie de plastique et puis de poubelles et puis d'ordures comme on fait en ce moment sans avoir des conséquences, puis à un moment donné, être pris dans un étau.
Mais vraiment, si tu veux faire le contraire de ça, là, tu vas te ramasser contre la majorité dominante et là, tu es à contre-courant. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je vis. Je vais dans une autre direction, mais c'est difficile de trouver de la bonne nourriture, c'est difficile de trouver des bons savons, des bonnes choses, parce que la facilité fait qu'on peut les trouver n'importe où, à pas cher, mais c'est vraiment quelque chose qui t'empoisonne. Donc, il y a une volonté, ça prend une volonté, par exemple, pour s'opposer à l'appareil manipulateur plutocratique, mais pacifiquement, comme Gandhi l'a demandé, d'être soi-même le changement. Et dernièrement, j'ai eu cette réflexion, j'ai beaucoup étudié les Illuminati, je cherchais qu'est-ce que je peux faire, parce que ça m'écœurait, ça m'empoisonnait. Alors je me suis dit, la seule chose que moi je peux faire, c'est de refuser de participer. Je le fais déjà par exemple, je ne vote pas, par exemple. Mais bon, j'étais pas aussi attentif avec le flici, les choses qu'on met dans le lavage. Et c'est des petites choses perverses comme ça qui rentrent dans ta vie, qui t'empoisonnent.
Ouais.
Même si la nourriture, je faisais déjà pas mal attention, presque à 95%. Il y avait tout cet aspect là qui était encore là. J'ai réglé ça dernièrement. Donc, je me dis, et c'est pas facile. Parce que il y a personne, je connais personne qui fait ça, ou presque personne. Et puis, la majorité des gens dorment au gaz autour de moi. Puis, ça va complètement dans l'autre direction. Ce que tu dis, les gens le savent. Ils savent que ça va mal, puis que ça va vers sa périclite. Mais les gens dorment. La majorité des gens dorment sur cette planète. Donc,
ils veulent pas l'entendre parce que, d'après moi, ils voient ça comme un mur infranchissable. Ils sont désespérés, ils ont peu d'options, ils ont peu de... Mais l'idée, c'est de commencer des fois à petit pas. T'sais. Même un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois.
Ça me semble inintelligible pour moi. C'est pas qu'ils sont pas. Ils ne peuvent même pas le sentir. Un peu comme les premiers. Avant, quand il y avait les Amérindiens ici, les premiers colons qui sont venus, ils étaient parqués juste devant la berge. Il n'y a personne qui voyait le bateau parce que les Amérindiens ne pouvaient pas concevoir un bateau. Ils ne savaient pas c'était quoi. Donc, même s'ils étaient là devant eux, ils ne le voyaient pas. C'est le chaman de la tribu qui, à force de regarder, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose et il a fini par en avertir les autres. Et là, ils ont commencé à voir. Mais ce qui semble si évident à nous ne l'est pas à la majorité, évidemment, parce que quand je parle à des gens normaux, c'est évident qu'il n'y a pas de problème. Le frigidaire est plein de craft, de plein de produits qui sont bannis dans certains pays. Ils se mettent du désodorisant en dessous des bras.
L'aluminium,
ils sont heureux de se mettre du poison tous les jours en dessous des bras. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Et moi, ce que je peux y faire, c'est de me changer radicalement, puis d'espérer et de souhaiter que d'autres gens le fassent.
Exact.
Déjà qu'on en parle, que vous en parlez, même moi, vous m'ouvrez, vous me donnez la volonté de vouloir orienter ma vie différemment.
Parce que c'est plus facile en communauté. C'est cette idée de la communauté. Si une communauté d'éveil, par exemple, si on est plusieurs à chercher l'éveil ou à être éveillé, mais s'il y en a un qui est en train de s'endormir, bien, il peut se faire aider par quelqu'un d'autre. Il va se faire avertir. Ah, tu es en train de t'endormir. Regarde, tu pourrais faire ci. Ah, je te suggère ça. Et il y a une entraide. Et c'est pour ça que les gens qui cherchent l'illumination se regroupent souvent en ashram, en commune, mm-hmm. parce que c'est plus facile quand on est avec des gens qui nous ressemblent et qui cherchent la même chose.
J'imagine plus que tu le fais, plus que tu pratiques ces changements-là, ces manières de faire-là, plus que tu en sens des bénéfices, autant par l'alimentation, comme tu parlais des produits nettoyants et autres. Est-ce que concrètement, tu as vraiment observé depuis ces semaines, depuis ces mois, un changement au niveau de ton énergie, de ta vitalité grâce à ces changements-là?
Oui, parce que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. J'ai plus de clarté. Pour te dire à quel point, hier soir, j'ai décidé de refaire mon site Internet. Ça fait au moins plusieurs années que je repousse ça parce que je m'occupe beaucoup de mes clients. Et puis, c'est beaucoup d'énergie faire un site web. Mais hier, j'ai eu cette inspiration. J'ai dit, c'est le temps. Et donc, tu vois, je suis revenu vers moi. Je reviens à ma force intérieure. L'entraînement, je le fais beaucoup plus sérieusement là, pour devenir beaucoup plus musculeux. Donc, ça me donne beaucoup d'énergie. C'est incroyable. Puis, il y a une clarté dans ma vie. Donc oui, c'est comme si le poison, j'étais rendu à un point où j'étais empoisonné par les pensées. On sait, quand tu regardes les nouvelles, quand tu regardes les médias, quand tu vas dans le métro puis tu vois les grosses affiches, qui te disent, il y en avait une il y en a l'année passée, c'était 70% des gens ont la syphilis. Puis là, ils te proposent un médicament. Mais tu rentres dans le métro et tu as ça dans la face. Donc, comment, après, quand tu es dans le métro, veux-tu vouloir avoir le goût d'entrer en contact avec les gens? Tu te dis, 70% des gens ici ont des maladies transmissibles sexuellement. Et c'est ça le pouvoir des médias. Et donc, quelqu'un d'un peu trop simplet va entrer, il va voir ça, il va dire, c'est ça, tout le monde a les maladies.
Et le pouvoir des médias aussi, c'est le pouvoir d'ignorer certaines réalités. Il y a, mettons, une manifestation, quoi que ce soit, contre une certaine chose, mettons, contre Monsanto, tu ne les verras pas souvent, ces manifestations-là, publiées dans les médias populaires. Fait que faut se méfier, pas juste le fait que qu'est-ce qu'ils donnent puis quelle direction qu'ils prennent, mais aussi qu'est-ce qu'ils ignorent.
C'est sûr. Il faut s'éduquer. Et c'est ça, à mon avis, le gros problème présentement. Les parents n'étant pas éduqués, ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants et ils perdent un peu le contrôle. Tout a tellement changé dans les dernières années. Les enfants sont tellement rapides, tellement connectés. Mais il y a une éducation qui devrait tout de même se faire. Une éducation à réfléchir, à la pensée, apprendre à bien penser. Mais si les parents ne le savent pas. Moi, je suis né dans une génération où on a inventé la polyvalente, le cégep, on a décidé d'enlever les études classiques. Les gens ne savent plus écrire aujourd'hui. Je regarde ma mère qui est allée dans une école différente. Elle sait bien écrire. Pourtant, elle est à la campagne, tout dans la simplicité. Et j'ai eu une éducation à la ville, mais j'ai encore des lacunes. Et moi, j'ai beaucoup travaillé pour bien écrire. Donc, mais la majorité des gens... Aujourd'hui, c'est assez décrépit, la langue française, ou la langue peut-être en général. Et ça, c'est encore une volonté d'en haut. Donc, si tu décides de t'y opposer, attache ta tuque. Ça, c'est en québécois, là, mais...
C'est bon de colorer avec de belles expressions et tout, même si, selon la saison, ça peut changer. Là, on n'a pas toujours les tuques.
Si je comprends bien, Robert, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les médias vont choisir les nouvelles. Ils ont le choix et selon ce qui est avantageux pour eux de dire ou de ne pas dire. Donc, on est un peu manipulé par les médias.
Et ils opèrent aussi avec des instructions d'un niveau supérieur à eux. Donc, ils font des fois ce qu'on leur dit de faire.
Mm-hmm. Peut-être la phrase de la fin avec...
Jacques. C'est Confucius qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai écrite. On a deux vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
Bien, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Radio Centre-Ville. Merci au Mouvement Jovialiste de nous appuyer dans ce grand projet. Et je vous souhaite d'apprécier la dernière chanson qui s'appelle « Changer le monde » de Fab. Et je vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
À la prochaine. Au revoir.
Écoutez toutes nos émissions sur propossurlebonheur.com.
De toute façon, personne ne te doit rien, cadet ou doyen, fauché ou bien qu'on ait les moyens. Tous on veut changer le monde, les filles rêvent de
changer le monde,
les mecs rêvent de
changer le monde,
les gosses disent de
changer le monde,
mais on n'en fait rien, on n'en sait rien.
De toute façon, on ne peut pas sauver le monde, mais on peut toujours essayer.
Change, écoute.
autour de nous, faut que les choses avancent. Mais on peut pas se soigner, car les gens tirent sur les ambulances. On continue de saigner, le sale délire continue de régner. Et ses complices continuent de gagner. Je m'inquiète, même si je dis t'inquiète. Nos vies sont des panneaux de basket, et on met pas beaucoup de paniers. Dans ce match, y'a tellement de larmes qui coulent qu'on pourrait se baigner. Nous on nageait pendant qu'ils se plaignaient.
Ouais, il faut changer le monde, il faut changer le monde.
On rêve tous de
changer le monde.
Les filles rêvent de
changer le monde.
Les mecs rêvent de
changer le monde.
Les gosses disent de
changer le monde. Changer, changer, changer.
On rêve tous de
changer le monde.
Les filles rêvent de
changer le monde.
Les mecs rêvent de
changer le monde.
Les gosses disent de
changer le monde. Changer, changer, ouais. Changer.
Je fais un effort sur moi, vois, c'est dur, le monde est sournois. Tendu comme un compte en banque à la fin du mois. Je t'assure qu'ici on voit des tas de choses et à chaque fois on se dit pourquoi est-ce que ça tombe sur moi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça. Est-ce que chaque jour qui passe va finir comme ça. Ça, c'est la question qu'on se pose tous. On veut pas se laisser faire, baisser les bras, on s'y oppose tous. On rêve de changer le monde. Habillé Maria Carré et foutre une grosse gifle à James Bond. Ici, ça bluffe à chaque seconde. Faut pas se fier aux apparences, mon frère. Le monde est plein de fausses blondes. Ma soeur, le monde est plein de gros fonds. Genre qui sont forts à 10, mais qui en face à face deviennent des tombes. Ça fait plaisir lorsque les masques tombent et se ramassent la face. J'aime faire les attentats sans poser de bombe. Sans causer, y'aura jamais rien de bon.
Rien de bon, ouais. Y'aura jamais rien de bon. Y'aura jamais rien de bon. Il faut changer le monde. Il faut changer le monde.
On rêve tous de
changer le monde.
Les filles rêvent de
changer le monde.
Les mecs rêvent de
changer le monde.
Les gosses disent de
changer le monde. Changer, changer, changer.
On rêve tous de
changer le monde.
Les filles rêvent de
changer le monde.
Les mecs rêvent de
changer le monde.
Les gosses disent de
changer le monde. Changer, changer, changer.
De toute façon, on va tous crever.
Tous.
Même si on cherche la perfection, on l'atteint jamais, il faut pas se leurrer. Faut pas pleurer le jour où je disparais. Le monde nous voit vieillir et on le voit devenir ce qu'on en fait. Ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on en sait. Pour l'avenir, on s'attend au pire. Comme ça, s'il vient, on sait sur quel pied danser. S'il vient pas, on sera pas vexé. Nos vies sont des lecteurs CD. La plage qu'on veut n'est pas indexée. Ici, c'est dur de démarrer. Là d'où on vit, c'est dur de tous les jours se marrer. On fait le max avec un minimum donné, un minimum d'années, et on trime comme des damnés. Nos mères angoissent depuis des années. On a reçu la poisse, pourtant on s'était pas abonné. Et qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on change le monde et sa face avec un beat et une basse. Espace restreint, contraint, on voulait juste respirer. Le reste on nous y a obligés. On rêve tous de
changer le monde.
Les filles rêvent de
changer le monde.
Les mecs rêvent de
changer le monde.
Les gosses disent de
changer le monde. Changer, changer, changer.
On rêve tous de
changer le monde.
Les filles rêvent de
changer le monde.
Les mecs rêvent de
changer le monde.
Les gosses disent de
changer le monde. Changer, changer,
ouais.
Changer.
Ibrahim, atypique, il faut changer le monde. Hein, t'inquiète, on va le changer.